années de Calvin à Genève. Ensuite, passons à un autre chapitre de la Réforme. Nous avons vu comment Calvin était venu donc s'installer une deuxième fois à Genève après en avoir été expulsé, et comment il avait réorganisé donc le culte et la cité tout entière. Nous avons vu aussi quelle était la doctrine de Calvin dans l'institution chrétienne, et notamment cette pensée fondamentale qui était la sienne sur les sacrements, qui sont pour lui des signes visibles d'une grâce invisible mais réelle, mais qui s'élevait également contre les abus d'allégorie qui avaient foisonné dans l'Église catholique, notamment depuis Origène. Donc Calvin, pour réformer la vie et les mœurs à Genève, crée un consistoire, ce qu'il appelle un consistoire, composé de 18 laïcs et de 60 ecclésiastiques, qui a pour but d'excommunier les pécheurs impénitents, les empêcher de s'approcher de la Sainte Cène. À côté de cela, Calvin estime que l'Église n'a pas à se mêler des affaires de l'État. Dans la pratique, on a souvent reproché à Calvin d'avoir été quand même un peu trop imbriqué dans les affaires de l'État. Un des disciples de Calvin, Théodore de Bèze, lui affirme que si le pouvoir central est hostile à l'Évangile, les magistrats doivent prendre les armes contre lui, le renverser. La révolution est légitime quand il s'agit de la liberté religieuse. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une affirmation qui demande à être nuancée. Maintenant, il est certain que la vision de Calvin, l'organisation de Calvin, a eu un effet extrêmement bénéfique. Car la réforme de Luther s'était installée partout où elle avait réussi à devenir majoritaire. La réforme de Calvin va réussir à subsister en tant que minorité dans des pays à majorité catholique. Et ça, dans le contexte de la fin du Moyen-Âge, c'est presque incompréhensible. Là, c'est un véritable tour de force que Calvin a réussi donc à constituer. Sur le plan du culte, Calvin abolit les fêtes catholiques, la fête de Dieu, le Saint-Sacrement et toutes ces choses-là, bien sûr, les cultes, toutes les fêtes des saints, l'Assomption et tout ce qu'on voudra. Il ne garde que Pâques, Pentecôte, Noël et les grands Assomption, etc., les grands moments liturgiques, si j'ose dire. Et nous avons vu que, de temps en temps, Calvin n'hésite pas non plus à avoir la main un peu lourde. Et ainsi, non seulement content d'avoir fait, enfin, d'avoir indirectement, en tout cas, amené l'exécution par le feu de Michel Servet, nous avons vu ça la dernière fois, en 1555, directement, il fait exécuter des contestataires. En tout cas, il réussit, et c'est son but, de faire de Genève une ville modèle. Calvin a une bibliothèque très importante qui comprend 350 gros volumes, ce qui à l'époque est énorme pour un particulier. Quand on sait les prix, que même avec l'imprimerie, les livres atteignaient, on se rend compte qu'il y avait là une petite fortune. Malgré les excès de son caractère, qui était dû aussi en grande partie à la mentalité de son époque, Calvin était un homme compatissant, un homme sensible et un homme totalement désintéressé. Il vivait modestement dans une maison qui a été mise à sa disposition par l'État genevois au bord du lac, un endroit assez joli d'ailleurs. Il vivait donc avec sa femme et ses enfants et, dans la plus grande simplicité, a toujours fait preuve d'un total désintéressement. Et on peut dire que la réforme calviniste est venue juste au moment où le luthéranisme se figeait. Calvin meurt en 1564. et c'est son disciple Théodore de Bèze qui lui succède à la tête de l'église de Genève. C'est un garçon qui s'est converti à Vézelay. Il est né en 1519, il mourra en 1604. Comme Calvin, Théodore de Bèze croit à la dépravation totale de l'homme, à l'élection inconditionnelle qui dépend de la totale souveraineté de Dieu, et que la grâce est irréversible, qu'il y a l'assurance qu'à partir d'une fois où on est sauvé, on ne perdra plus jamais son salut, parce que Dieu donne la grâce de la persévérance jusqu'au bout. Avant de terminer ce chapitre sur Calvin, j'aimerais vous lire ce très beau passage qui nous a été conservé, où Calvin sentant sa fin prochaine a rassemblé tous les pasteurs de Genève et leur fait ses adieux. Voici ce qu'il leur dit. « J'ai vécu ici en combat merveilleux. J'ai été salué par moquerie le soir devant ma porte de 50 ou de 60 coups d'arquebuse. On m'a mis les chiens à la queue en criant « RR ». Ils m'ont pris par la robe, ils m'ont pris par les jambes. J'ai été parmi les combats. Et vous en expérimenterez qu'ils ne seront pas moindres, mais même plus grands. Mais prenez courage, vous fortifiez, car Dieu se servira de cette église et la maintiendra, et je vous assure que Dieu la gardera. J'ai eu beaucoup d'infirmités, lesquelles il a fallu que vous supportiez. Et même tout ce que j'ai fait n'a rien valu. Les méchants prendront bien ce mot, mais je dis encore que tout ce que j'ai fait n'a rien valu et que je ne suis qu'une misérable créature. Mais je puis dire cela, que j'ai bien voulu, que mes vices m'ont toujours déplu et que la racine de la crainte de Dieu a été dans mon cœur. Et vous pouvez dire cela, que l'affection a été bonne. Et je vous prie que le mal me soit pardonné, mais s'il y a du bien, que vous vous y conformiez et l'en suiviez. Quant à ma doctrine, j'ai enseigné fidèlement et Dieu m'a fait la grâce d'écrire ce que j'ai fait le plus fidèlement qu'il m'a été possible. Je n'ai pas corrompu un seul passage de l'Écriture ni détourné de mon escient. Et quand j'eusse bien pu amener des sens subtils, si je me fusse étudié à subtilité, j'ai mis tout cela sous le pied et me suis toujours étudié à simplicité. Voilà donc, si vous voulez, cette extraordinaire personnalité, cette puissante personnalité que fut celle de Calvin, qui a permis à la réforme de connaître, si on peut dire, un second souffle. À côté de Calvin, j'aimerais évoquer la figure d'un autre réformateur sur lequel nous sommes peu arrêtés, sur lequel j'aimerais revenir un peu parce que quand même, c'est aussi quelqu'un qui a eu son importance, c'est Martin Bucer. Martin Bucer est né en 1491. C'est un des réformateurs méconnus qui fut, de tous les réformateurs, celui qui a voyagé le plus. C'était le fils d'un tonnelier qui était né à Célestat, qui était une ville impériale d'Alsace. Sa mère était sage-femme. Peu de temps après sa naissance, sa famille est allée s'installer à Strasbourg. Et dans cette école, il a été très tôt marqué par l'humanisme chrétien, d'Érasme, etc. Les parents, donc, de Bucer étaient pauvres. Or, très vite, le jeune Martin s'est révélé comme quelqu'un qui était insatiable d'apprendre et de s'instruire. Comme ses parents n'avaient pas d'argent pour s'instruire, il n'avait pas d'autre solution que d'entrer dans les ordres. Il va donc postuler dans le couvent des bénédictins du coin, et sa vocation est uniquement motivée par le souci de l'étude et pas du tout par des considérations religieuses. Pas de chance pour lui. Dès qu'il est ordonné moine, son supérieur lui interdit l'accès à la bibliothèque du couvent. Catastrophe pour Martin Bucer, qui se rend compte que son engagement dans les ordres n'a plus de sens. Finalement, il parvient à contourner l'interdiction de son supérieur et il entreprend des études philosophiques et théologiques poussées. En 1516, il est ordonné prêtre à Mayence. Il a surtout été marqué par Thomas d'Aquin. Et voilà qu'un an auparavant, 1515, le couvent dans lequel il se trouvait avait reçu la visite du provincial de Luther. Et le 31 janvier 1517, pour poursuivre ses études, Martin Bucer s'inscrit à l'université de Heidelberg, où il devient professeur d'écriture sainte. Et c'est le 26 avril 1518 qu'il rencontre Luther, qui vient dans cette université exposer les principaux points de sa théologie. Cette rencontre est décisive pour Bucer. En 1519, il est nommé maître des étudiants de son couvent. Et en 1520, il lit l'appel à la noblesse allemande de Luther, et c'est alors qu'il décide de s'enfuir du couvent après s'être converti. Néanmoins, il reste dans les ordres et en 1523, il devient chancelier de l'évêché de Mayence, si vous voulez le mal de Mayence, quoi. Et c'est de là qu'il va amener la réforme à Strasbourg. En effet, peu de temps après, il se rend compte qu'il n'a plus rien à faire avec l'Église catholique, que sa foi est aux antipodes de la foi catholique. Et c'est alors qu'il démissionne de sa charge et vient s'installer d'abord dans un château proche de Strasbourg, et il demande au pape de le relever de ses vœux. Le pape va accepter, et c'est ainsi que Bucer peut encore rester un temps dans l'Église catholique en tant que chapelain de l'électeur palatin Frédéric. Ce n'est que quelques mois plus tard qu'il rompt définitivement, et sa rupture, évidemment, ça va être le mariage. Il épouse une ancienne religieuse. Religieux et religieuses avaient une tendance poussée à se marier entre eux. Luther s'est marié avec une religieuse, pas Calvin. Bucer aussi donc s'est marié avec une religieuse. Et évidemment, le résultat ne se fait pas longtemps attendre. Un an plus tard, en mai, il est excommunié. C'est ainsi qu'il arrive à Strasbourg. Strasbourg, qui est une ville énorme à cette époque-là, qui a 22 000 habitants, c'est une des très grandes villes de l'Empire. Et là, Bucer prêche la réforme. Et sous l'influence de Bucer, Strasbourg passe à la réforme. Bucer est quelqu'un qui ira encore, si vous voulez, bien moins loin que Luther, parce qu'il reste très marqué par le système catholique. D'abord, il est marqué par Thomas d'Aquin, et il garde une espèce d'optimisme philosophique qui contraste avec le pessimisme de Calvin, pessimisme qui est biblique, à savoir pour Calvin que la nature humaine est totalement corrompue et qu'elle ne peut rien faire de bien. Tout ce qu'elle fait est entaché par le péché. Bucer a gardé un peu la vision catholique que malgré tout il reste dans l'homme d'un certain nombre de bonnes choses, et que sur la base de ces bonnes choses, on peut quand même s'attendre à ce que tout ne soit pas négatif dans l'homme. Mais la grande contribution de Bucer à l'œuvre de la réforme va être essentiellement le travail important qu'il va faire sur la Sainte-Seine. Vous savez que c'est en effet la grande pomme de discorde entre Luther et Calvin, entre Luther et Zwingli également. Et Bucer va être assez proche finalement de Melanchthon, avec lequel d'ailleurs il va se lier, et proche, donc beaucoup plus proche de Luther que de Calvin sur la question de la Sainte-Seine. Néanmoins, c'est grâce à lui qu'il y aura finalement un accord possible entre les réformateurs. Il va être, au moment de ce fameux colloque de Marbourg dont nous avons déjà parlé, n'est-ce pas, qui a débattu entre les principaux réformateurs, c'est-à-dire essentiellement les Allemands et les Suisses, c'est-à-dire Luther et son équipe, et puis Zwingli et les siens, n'est-ce pas? Eh bien, Bucer va empêcher la rupture. Bucer est celui qui va finalement réussir à faire en sorte que les deux parties soient d'accord de ne pas être d'accord, n'est-ce pas? Et fassent un front commun contre le catholicisme. Pour lui, le repas eucharistique est au centre de l'Église, de la vie de l'Église. Là, nous voyons la différence qu'il y a avec un homme comme Calvin. Pour Calvin, il y a Église. Là où la parole de Dieu est annoncée droitement, et là où les sacrements, à savoir le baptême et la Sainte-Seine, puisque Calvin ne reconnaît que deux sacrements, là où les sacrements sont administrés droitement. Or, pour Bucer, il y a église là où est célébré le repas du Seigneur. Alors, on voit que là, on est dans un système qui se rapproche beaucoup plus du catholicisme. Et c'est avec son ami Capiton que Bucer va écrire une autre confession de foi, en dehors de la confession d'Augsbourg, n'est-ce pas, qui va porter le nom de confession de foi tétrapolitaine, car elle est le fruit du travail de quatre cités, tétra en grec quatre, n'est-ce pas, polis, ville, qui s'unissent pour faire leur cette profession de foi qui va avoir pour rédacteurs principaux Bucer et Capiton. Quelle est donc la vision de Bucer ? Bucer a une vision très très constantinienne de l'Église. Pour lui, il n'y a pas grande différence entre l'Église et la cité. L'Église doit finalement englober toute la cité, mais à partir de différents cercles. Parce que les gens dans la cité sont à différents niveaux. Donc, il s'agit de tenir compte de ces différents niveaux. C'est-à-dire que Bucer essaye de faire une vision rationnelle de la vision multitudiniste de Constantin. Et alors, précisément, l'optimisme de Bucer l'amène à avoir un slogan qui est fort discutable. L'Évangile permet de trouver à tous le bonheur. Bon, c'est pas entièrement faux, mais c'est quand même pas le but premier, il faut reconnaître. Si l'on entend en tout cas par bonheur, bonheur ici-bas, ce qui était le cas pour Bucer, le bonheur en au-delà, oui. Maintenant, ceux qui ont été brûlés sur les bûchers, je sais pas s'ils ont trouvé que l'Évangile leur apportait tellement le bonheur ici-bas. Enfin, c'était la vision de Bucer. Alors, comme il était dans une très grande ville, il avait divisé la ville en quartiers avec des communautés de quartiers qu'il appelait les paroisses. Et autour de ces paroisses gravitaient des écoles, des hôpitaux, des lieux d'accueil, d'assistance pour les plus démunis, pour les réfugiés, etc. C'était très bien d'ailleurs. Et puis ensuite, il y avait une centralisation suite de tous ces différents. Ces différentes paroisses à partir de ce qui était la cathédrale. N'est-ce pas ? Maintenant, Bucer est aussi le père de la confirmation protestante. Car, comme il était multitudiniste, Bucer était très attaché au baptême des enfants. Se rendant bien compte qu'il y avait un décalage par rapport à l'Évangile, il a donc transposé dans le protestantisme le rite, le sacrement catholique de la confirmation, tout en refusant d'ailleurs d'y voir un sacrement. Maintenant, Bucer était un homme qui partageait le point de vue de Mélenchon sur le fait que la réforme ne pouvait être qu'une parenthèse, qu'une situation temporaire, et que l'on devait tout faire pour retrouver l'unité perdue. Et notamment, il acceptait le pouvoir du pape, la vision du pape. Ce qui a amené d'ailleurs un catholique avec un certain aplomb dire que s'il avait vécu aujourd'hui, il aurait accepté le ministère de Jean-Paul II. C'est facile de faire parler les morts. Hein. Surtout quand on a envie qu'ils disent ce qu'on a envie qu'ils disent. En tout cas, il était pour la collégialité épiscopale. Et c'est la raison pour laquelle il a effectué de très très nombreux voyages. Maintenant, Bucer aussi avait une vision assez intolérante des choses, car toute autre vision que l'Église multitudiniste, pour lui, était une secte. D'où la condamnation sans appel des anabaptistes, dont nous aurons l'occasion de reparler, et de tous les mouvements évangéliques qui sont nés à cette époque-là. En 1541, éclate à Strasbourg une épidémie de peste, et Bucer perd toute sa famille qui est décimée par la peste. Il perd aussi son ami Capiton qui est emporté également par la maladie. Capiton laisse une veuve que Bucer épousera. C'est pas... Il meurt dans les années 50 après avoir été chassé de Strasbourg où il a été amené à gagner l'Angleterre, invité par Cranmer. Il fonde une église protestante de langue française, et c'est en 1551 qu'il meurt. Bon, simplement quelques mots, parce qu'il fallait simplement, il fallait aussi parler de cet homme-là qui a été quand même quelqu'un d'important. Maintenant, nous allons laisser, si vous voulez, cette partie de l'Europe de côté et voir la réforme dans une autre région de l'Europe, l'Europe centrale. Car à partir de l'Allemagne et de la France, la Suisse, la réforme va s'étendre dans l'Europe tout entière. Ce n'est pas par un ordre chronologique que je prends les choses. C'est plutôt logique que chronologique, si vous voulez. L'Europe centrale, c'est d'abord la Hongrie. En 1521, le roi de Hongrie, Louis de Bavière, qui règne sur le pays, se marie avec une fille de Charles Quint nommée Marie, qui est la fille de Jeanne la Folle. Une sœur de Charles Quint, qui est une fille de Jeanne la Folle. Or, cette Marie, en 1518, entend parler de Luther et se convertit au luthéranisme. Et à partir de ce moment-là, elle va faire venir Luther en Hongrie, elle envoie de l'argent pour que viennent s'installer des prédicateurs qui viennent prêcher la réforme en Hongrie. Et en Hongrie, à partir de cette année 1518 jusqu'à l'année 1524, de très nombreuses personnes se convertissent à Jésus-Christ. Tant et si bien que le roi Louis de Bavière, son mari, réagit, et le 15 août 1524, une ordonnance est prise contre la réforme, interdisant la prédication de luthéranisme dans le royaume de Hongrie. Mais il n'y a pas de persécution violente, on se contente de brûler tous les livres de Luther. 2 ans plus tard, en 1526, le sultan turc Soliman dit le Magnifique pénètre en Hongrie après avoir pris Belgrade. Le 29 août, les Turcs sont devant Budapest et Louis de Bavière doit donc faire face à cette invasion turque. Marie, sa femme, passe la journée en prière, mais hélas, l'armée de Hongrie est défaite et le roi, Louis II, meurt dans la bataille. Pendant la confusion qui s'ensuit, le régent, qui remplace Louis II, en profite pour persécuter les luthériens. Et nombreux sont les protestants qui vont être mis à mort, exécutés, malgré les protestations de Marie, qui fait tout son pouvoir, qui fait tout son possible, plus exactement, pour protéger les protestants. Finalement, le climat incertain politique en Hongrie bascule au profit des Turcs, qui s'emparent d'une bonne partie du royaume. Et on assiste à cette chose absolument extraordinaire, que, une fois au pouvoir, Soliman le Magnifique refuse, malgré les demandes du régent, de persécuter les protestants. Il reconnaît à part égale le protestantisme pour une raison simple. C'est que le protestantisme s'élève contre les images, contre les statues, qui sont une abomination aux yeux des musulmans. Et le protestantisme apparaît à Soliman beaucoup plus proche de l'islam que le catholicisme. Et c'est pourquoi Soliman va favoriser le protestantisme contre le catholicisme en Hongrie. Il fait nommer comme pasteur principal de Budapest un certain Devag, mais malgré la protection de Soliman, ce dernier sera arrêté, jeté en prison, libéré à nouveau, puis à nouveau emprisonné, jusqu'à ce que finalement il s'enfuit. En 1538, la doctrine de Zwingli pénètre également en Hongrie, si bien que nous avons là un deuxième courant de la réforme qui va apparaître dans ce pays. Finalement, De Vague est obligé de s'enfuir en Suisse. Et on assiste à cette chose tout à fait étonnante, extraordinaire, que Le pouvoir romain est persécuteur et le pouvoir islamique est tolérant. En tout cas, à cette année-là, toute la Transylvanie va recevoir l'Évangile. Toute la Transylvanie va passer à la réforme. Depuis la Hongrie, la réforme va se transporter en Bohême-Moravie, l'actuelle Tchécoslovaquie. Or, vous savez que depuis le siècle précédent, il y avait dans ce pays de très nombreux croyants qui étaient issus de la réforme hussite en particulier. Et dès que les hussites qui avaient réussi à subsister, il y avait deux groupes essentiels de hussites, vous vous en souvenez, les calistins, ceux qui ne demandaient qu'une seule chose, qu'une seule réforme, c'est qu'on leur rende la coupe dans le cadre de l'Église catholique, ceux-là, ils n'étaient pas très exigeants. Et puis ensuite, il y avait ce qu'on appelait les taborites, qui eux, alors, allaient beaucoup plus loin. Ils étaient en relation avec les Lollards et avec les Vaudois, et eux demandaient une réforme beaucoup plus radicale, évidemment. On les appelait également les frères de la vie commune, parce qu'ils vivaient en communauté, ou encore les frères de l'unité. En 1522, les nouvelles de ce qui se passe en Allemagne les atteint. Et les taborites envoient à Luther une délégation pour le féliciter, et puis pour demander, en quelque sorte, une communion avec lui. Luther, qui a entendu, quand il était moine, parler en mal de la réforme hussite, que c'est un homme très impulsif, Luther, il ne prend pas soin d'examiner les affaires très loin, il commence par les y conduire et par le rejeter brutalement, comme il sait le faire. Et ce n'est que peu de temps après que Luther se rend compte de son erreur, et une deuxième délégation des taborites est reçue par lui, au contraire, avec affection et estime. À partir de ce moment-là, les taborites et, disons, tous ces gens qui gravitaient dans le sillage de la réforme hussite vont passer à la réforme luthérienne. Et les cendres encore chaudes, si j'en peux dire, du réveil hussite vont provoquer une nouvelle vague de réveil. Et une grande partie du peuple tchèque va aussi se tourner vers la réforme. Ces frères tchèques, comme on les appelle, vont évangéliser la Pologne, où ils vont avoir un très très grand succès. Et la Pologne va, elle aussi, passer à la réforme, jusqu'à l'époque de la contre-réforme, quand le catholicisme enverra les jésuites en Pologne pour ramener la Pologne au catholicisme, catholicisme pur et dur, en sorte que jusqu'à aujourd'hui, la Pologne constitue un bastion du catholicisme obscurantiste, dont le plus illustre fleuron est aujourd'hui sur le trône de Rome, d'ailleurs. N'est-ce pas comment c'est ? En 1431, les premiers disciples de Jean Hus arrivent à Cracovie. Et cette même année, un certain prêtre, qui se nomme Bernard de Lublin, reconnaît que la seule écriture est la source de l'autorité. Depuis déjà 1517, les premiers écrits de Luther avaient atteint la Pologne, et c'est en 1524 qu'un moine du nom de Poen attaque les erreurs du catholicisme et s'affiche ouvertement pour la réforme. En 1525, de nombreux nobles polonais passent à la réforme et font traduire à leurs frais le Nouveau Testament en polonais. Gdansk va être le principal foyer de la réforme polonaise. Et cette réforme va provoquer d'ailleurs une révolution politique sous la direction d'un certain Jean Knald, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Or, pour ramener les choses dans la droite ligne catholique, les catholiques font appel au roi Sigismond, qui va organiser une répression extrêmement sanglante, contraignant ceux qui ne veulent pas abjurer, revenir au catholicisme, à s'exiler. En fait, nous voyons ici que cette réforme de Gdansk a été une erreur. Nous voyons, une fois de plus, que l'Évangile ne peut pas se répandre par la force. L'Évangile ne peut pas se répandre par le faire, mais simplement par sa propre puissance interne. Néanmoins, malgré cette répression qui va stopper la réforme pour un temps, l'Évangile va continuer à se répandre. Et en particulier par des livres qui circulent sous le manteau, en sorte qu'un nouveau foyer va s'allumer, un nouveau foyer de réforme va s'allumer en Pologne, Cracovie. Cracovie, où va paraître le grand réformateur polonais, Jean de Lascaux, qui est un archidiacre, primat de Pologne, qui d'abord est hostile à la réforme. Son neveu Jean est disciple d'Érasme. Il se rend à Louvain pour étudier avec le célèbre professeur, mais il est rebuté. En 1525, il revient à Zurich, où il rencontre Zwingli. Puis il séjourne à Bâle, et enfin il rejoint la Pologne après s'être converti. Quand ses parents, à son retour en Pologne, se rendent compte qu'il s'est converti, ils sont catastrophés. Ils font tout ce qui est dans leur possible pour le détourner, et ils tentent de l'envoyer à la cour. Et en effet, à la cour, dans le monde, dans les fêtes, dans les bals, dans les spectacles, sa foi, son zèle, se refroidit passablement. Malgré ce refroidissement, il a des ennemis, et à la cour même, il est accusé d'hérésie. Et publiquement, il doit renier la réforme. Ce qu'il fait, puisqu'il est attiédiste, ça ne le dérange pas tellement. Plus tard, dans la correspondance qu'il aura avec Melanchthon, il se reprochera amèrement ce moment de faiblesse. En 1531, son oncle archidiacre meurt, son oncle primat de Pologne meurt, et lui est nommé évêque. Mais en 1536, il démissionne de son poste, et là il revient à Dieu. Le fait qu'il ait été amené à devenir évêque contre son gré, c'était un jeune homme mondanisé, mais les évêques pouvaient l'être comme ça, c'est pas gênant. Mais lui a pris sa charge au sérieux. Il s'est replongé vraiment dans l'étude de la Bible. Il a compris que le catholicisme faisait fausse route et il démissionne. Il quitte la Pologne, bien entendu, il n'a pas intérêt à rester. Il se rend à Mayence et à Louvain. Louvain aux Pays-Bas où il rencontre des Lollards, des Vaudois, des frères hussites, car les Pays-Bas sont le refuge de tous ces gens-là. Et ces gens-là sont surtout très nombreux parmi les tisserands et les fripiers, les vendeurs de vêtements, si vous voulez. Et là, il va prendre contact avec une autre branche de la réforme évangélique, la branche évangélique. C'est à Louvain qu'il se marie, puis il se rend en Frise orientale, qui est le refuge de tous les persécutés. C'est là que, à l'hiver 1542, il apprend que son frère, qui est en Pologne, est mourant. Il désire voir une dernière fois son frère avant sa mort et il quitte la Frise pour se rendre donc en Pologne. Hélas, quand il arrive, son frère est décédé. Lascaux ne reste pas plus longtemps en Pologne où il sait que sa vie est menacée. Il revient en Frise orientale. Et là, il va organiser l'église évangélique de Frise. Il va l'organiser. Tous ces mouvements qui sont un petit peu marginaux, enfin pas marginaux, mais divisés, divers, disons, il va les unir dans une confession de foi commune, dans une vision commune, dans une organisation commune. C'est d'ailleurs là qu'il va entrer en controverse avec l'apôtre de tous ces mouvements-là, Menno Simon, donc on aura l'occasion de revenir, n'est-ce pas? Et bon, il va y avoir un différend assez important entre eux. Il meurt quelques années plus tard, après avoir fait cette œuvre très très importante, qui va donner une assise et un effort et un essor à toute la branche évangélique de la réforme. N'est-ce pas ? Autre endroit où la réforme se répand à cette époque-là, c'est la Scandinavie. D'abord le Danemark. C'est dans les années 1520-1525 que le Danemark va être touché par la réforme. Bon, le Danemark est proche de l'Allemagne, et c'est un peu normal qu'il soit le premier pays scandinave qui soit touché par la réforme. Ce n'est pourtant pas évident, car au Danemark, le clergé est extrêmement puissant. Et c'est dans ce contexte que va apparaître le réformateur du Danemark, qui se nomme Jean Tausen, T-A-U-S-E-N, qui est né à Odense en 1494. Comme la plupart des réformateurs, c'est tout à fait curieux, Jean Tausen va être un ecclésiastique. En effet, en 1515, il entre au couvent des Joannites à Odense. Et pour se perfectionner, en 1517, il part pour l'Allemagne. Là, évidemment, c'est l'année de la Réforme, où éclate la Réforme. Il se trouve à Cologne quand Luther affiche ses fameuses thèses et il en a connaissance. Piqué de curiosité, en 1519, il se rend à Wittenberg, juste au moment où Luther vient de recevoir la bulle d'excommunication, qu'il va brûler, vous le savez, publiquement. Il assiste à cet acte inouï de Luther qui brûle publiquement la bulle du pape qui l'excommunie. De là, il suit Luther à Worms et au contact de Luther, il se convertit. Fort de sa découverte, il comprend qu'il est l'homme de Dieu pour amener la réforme dans son pays. En 1521, il retourne donc au Danemark, dans son couvent, avec les écrits de Luther, qu'il commence à diffuser jusqu'à Copenhague. Il se trouve que le roi de l'époque, se nomme Christian II, va être favorable à l'œuvre de Tausen. Christian II est arrivé sur le trône à l'âge de 32 ans, en 1513, et il est roi à cette époque-là des trois royaumes scandinaves, Danemark, Norvège et Suède, qui sont soumis au Danemark. Bon, c'est un homme peu intéressant, irascible, violent, batailleur, jouisseur, tout ce qu'on voudra. Et en août 1518, il épouse une fille de Charles Quint, Isabelle. Une sœur de Charles Quint, pardon. Ça ne dure pas très longtemps. Peu de temps après, il sait prendre une prostituée. Il en est fou, etc. Bon, il est complètement subjugué par cette femme. Malheureusement, pour lui, ou heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, cette prostituée meurt quelque temps après. Christian en est complètement bouleversé. Il abandonne les affaires du royaume, qui va à volo. Heureusement, il a sa mère qui peut reprendre les choses en main. Et c'est dans cet état de folie, en quelque sorte, dans lequel il a sombré, qu'il autorise un légat du pape à venir vendre des indulgences dans le royaume du Danemark. Cette vente des indulgences va provoquer une révolte. En 1520, la Suède se révolte. Seulement, Christian II n'est pas homme à se laisser comme ça faire. Il passe en Suède avec une armée, il noie la révolte dans le sang, il se fait couronner en grande pompe à Stockholm, roi de Suède. Pour faire bonne mesure, il demande au pape de placer la Suède sous l'interdit, ce qui est fait. Et Christian II, pour éliminer ses ennemis, imagine un complot très savant. Une fois couronné roi, il invite dans un château 100 des nobles de la Suède, sous prétexte de grands banquets, etc. Et le 7 novembre, pendant que tout le monde est en train de banqueter joyeusement, il fait arrêter les 100 nobles et les fait massacrer. Et alors, Christian comprend soudain que ses véritables ennemis en Suède ne sont pas ses nobles, car la révolte ne cesse pas pour autant, mais c'est le clergé, ce sont les évêques. Et Christian II va faire une volte-face à 180 degrés. Il épouse la réforme pour se débarrasser des évêques. Motivation, comme vous le voyez, profondément spirituelle. Il écrit à Luther pour que soit envoyé en Scandinavie un homme pour prêcher la réforme. Luther délègue un certain Martin Reinhardt. Seulement, le problème, c'est que ce pauvre Reinhardt est un Allemand. Il ne connaît pas un mot de danois. Alors, il commence à prêcher la réforme, oui, mais il a prêché en allemand. Inutile de vous dire, le résultat, 0, 00, 000, parce qu'il dit certainement de très belles choses, mais pas personne ne le comprend. Alors le résultat, évidemment, il est à l'avenant. Alors le roi est fort désappointé. Il écrit une deuxième lettre à Luther, disant « ça ne marche pas, venez vous-même en personne prêcher la réforme ». Bon, Luther a d'autres chafouettés, il refuse. Alors le roi décide de prendre lui-même des mesures radicales, puisque personne ne peut prêcher la réforme, il va faire lui. Et il fait ça très rapidement. Premier décret, il interdit le célibat des prêtres, tous les prêtres doivent se marier dans les... Bon. Luther, devant ça, cette méthode un peu expéditive, quand même s'émeut un peu, et il envoie cette fois-ci quelqu'un de plus valable pour prêcher la réforme, un certain Karlstadt, mais c'est Karlstadt lui-même, n'est-ce pas ? Qui est envoyé depuis l'Allemagne. Trop tard. Une nouvelle révolte vient d'éclater en Suède. Le roi s'enfuit et finalement abdique. Son fils Jean lui succède, puis un autre de ses fils, nommé Frédéric, lequel poursuit la politique de son père favorable à la réforme. Il se rend lui-même en Allemagne, d'ailleurs, pour en savoir davantage, et il promulgue la liberté religieuse dans ses États. En Allemagne, il participe à la fameuse diète de Worms, et quand il entend Luther, il est bouleversé, il se convertit véritablement. Une véritable conversion. Cette fois-ci, ce n'était pas quelque chose de politique, de calculé, c'était véritable. Il comprend que pour que la réforme ait une chance de réussir au Danemark, il faut qu'elle soit prêchée dans la langue danoise. Et il envoie en Allemagne un certain Malmö Nicholson pour traduire le Nouveau Testament en danois. Et effectivement, la traduction du Nouveau Testament en danois va être le moyen par lequel la réforme va pénétrer dans ce pays. Le 1er août 1527, un nouvel écrit du roi confirme la liberté religieuse à la grande consternation des prêtres. C'est alors que Tausen, qui était toujours dans son couvent, maintenant est à l'écoute des Franches pour prêcher véritablement la réforme. Il s'en prend aux moines, qu'il dénonce comme imposteur, et il prêche à l'église Saint-Nicolas de Copenhague devant le roi. Il devient le titulaire de la chaire de Saint-Nicolas, la grande chapelle royale de Copenhague. Le 20 juillet 1530, à la diète de Copenhague, Tausen présente une confession de foi, qui est d'ailleurs inspirée de la confession d'Augsbourg, de Melanchthon, et qui va être adoptée officiellement comme la confession de foi du royaume du Danemark jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Pendant ce temps-là, Christian est parti en Norvège, dont il devient roi. Mais son fils le poursuit là-bas, le chasse de Norvège, et devient roi à sa place. Le 10 avril, Frédéric meurt à l'âge de 62 ans. Et son fils est encore trop jeune pour régner. Donc il y a un régent, plusieurs régents d'ailleurs, qui vont se succéder. Et qui, eux, influencés par les prêtres, vont restreindre la liberté religieuse. Dans ce contexte de répression, Tausen est arrêté, condamné à mort, mais sa peine sera commuée en exil. Devant cette situation, la Ligue hanséatique va tenter de remettre Christian sur le trône. Christian qui s'est enfui de Norvège. Et Christian redevient roi, malgré l'opposition des évêques. Par deux fois, il tente de s'emparer de la ville de Lübeck. Deux fois, il subit un échec. Ce qui fait qu'il est amené à se réfugier à nouveau en Norvège, où il va introduire par ce même moyen également la réforme. Pendant ce temps, la réforme pénètre également en Islande par l'intermédiaire d'un certain Hogin, O-G-H-I-N, qui traduit le Nouveau Testament dans la langue du pays. et qui est assisté par un certain Paludius, qui est nommé évêque luthérien de l'Islande. Autre pays qui va virer à la réforme à cette époque-là, c'est la Suède. La Suède va avoir comme apôtre un certain Pierre Olofsson, qui est originaire d'Örebro, la ville d'Örebro, où il est un simple ouvrier qui travaille le fer. En 1499, bien qu'il soit un simple ouvrier du fer, tous ses fils sont intéressés par la théologie et font des études de théologie. Un de ses fils, qui se nomme Olaf, se rend notamment à Wittenberg, à l'université dont Luther a fait son centre. Et un autre fils, qui est né en 1496, va le rejoindre peu de temps après, au moment où le mouvement de la réforme se produit. Seulement, ce malheureux Vara, à son retour, s'arrête au Danemark, où il va être fait prisonnier, au moment de tous les événements de contre-réforme qu'il y a au Danemark. Pendant ce temps, nous avons vu qu'en Suède, il y avait une révolte qui grondait, et donc un rival de Christian se fait proclamer roi à Stockholm. Il promet son appui. Et en janvier 1525, il est balayé par la riposte de Christian, si nous l'avons vu, lequel, qui s'appuie encore à ce moment-là sur les évêques, qui a fait massacrer les nobles, comme nous l'avons vu, fait aussi arrêter tous les réformateurs. C'est ainsi qu'Olaf est arrêté cette année-là, il est mis à mort. En 1527, un congrès épiscopal conduit par l'évêque oblige le roi à abdiquer, c'est le triomphe total des évêques. Mais le peuple n'accepte pas ce retour du catholicisme et il exige une disputation pour décider du sort du pays. Le roi hésite longtemps, car il veut reprendre son trône, nous l'avons vu, et finalement, il accepte le principe d'une disputation qui tourne à la confusion des catholiques, en sorte que cette disputation de 1527 marque la chute du catholicisme en Suède. Le 12 janvier 1528, après le départ de Christian et l'élimination, nous l'avons vu, de ce dernier du trône de Danemark, donc à nouveau le trône de Suède est vacant, la Suède peut retrouver son indépendance, et un certain Gustave est nommé roi de Suède en grande pompe dans la cathédrale d'Uppsala. En janvier suivant, dans une assemblée à Örebro, le roi se trouve en face d'un rival qui se dresse contre lui. Une guerre civile éclate, jusqu'à ce que le rival soit mis à mort et que, eh bien, le roi reste, Gustave, reste seul en piste, mais pas pour longtemps. Il meurt la même année et son fils Éric lui succède. Il meurt lui-même. Il est remplacé par un autre de ses fils qui se nomme Jean. C'est alors que nous sommes déjà ici presque en 1586, à l'époque de la contre-réforme, n'est-ce pas? Les jésuites vont être envoyés en Suède pour amener la Suède dans le giron de Rome. Ils tentent de convertir les pasteurs. Comme ça, ils s'en prennent carrément aux pasteurs. Puis ensuite, ils tentent de convertir le roi. Mais le roi met des conditions qui sont inacceptables pour le pape, bien que son successeur, Jean III, se convertisse au catholicisme. À la mort de Jean III, son fils Sigismond lui succède, mais le peuple tient absolument à revenir à la réforme et le roi est détrôné. Le 25 janvier de cette même année, 1586, à l'Assemblée générale d'Uppsala, la réforme est définitivement adoptée en Suède, d'une manière irrémédiable. Voilà donc, si vous voulez, comment la Scandinavie va basculer tout entière dans la réforme. Et maintenant, il nous reste une dizaine de minutes, juste le temps de commencer un nouveau grand chapitre de cette histoire de la réforme du XVIe siècle. C'est en fait le troisième grand mouvement de réforme qui va naître à côté de la réforme allemande avec Luther, la réforme francophone, disons, avec la Suisse et la France, avec Calvin, essentiellement Zwingli, Bucer. Et maintenant, le troisième grand mouvement de réforme, c'est la réforme anglicane, la réforme en Angleterre. Ça, c'est tout un chapitre extraordinaire, pas toujours très beau, nous allons le voir dans un instant, mais sur lequel il nous faut maintenant nous arrêter. Disons, si vous voulez, d'abord quelques mots de l'Angleterre avant la réforme. L'Angleterre avait été, au XVe siècle, nous l'avons vu, secouée par un mouvement de pré-réforme, comme l'avait été la Bohème avec Jean Hus. Mais cette fois-ci, l'apôtre de ce mouvement de pré-réforme n'était autre que l'évêque Wycliffe. Wycliffe, qui avait finalement été éliminé, nous l'avons vu, ses partisans écrasés dans la persécution violente, et les partisans de Wycliffe, après sa mort, avaient été impitoyablement traqués. Notamment un de ses amis, l'évêque Cotham, C-O-T-H-A-M, qui finira par être arrêté, condamné à mort, enfermé à la Tour de Londres, mais qui parviendra à s'échapper de la Tour de Londres, ce qui n'est pas un mince exploit. Et il se réfugie au Pays de Galles. Malgré ça, en 1517, il est repris. Et là, le pauvre, il va être brûlé à petit feu. N'est-ce pas ? Les prisons de Londres se remplissent de partisans de Wycliffe, de Lollard et de gens semblables qui se cachent. Pourtant, au début du XVIe siècle, il y a chez les Médicis à Florence deux Anglais qui vont ramener en Angleterre le mouvement de la Renaissance. C'est aussi l'époque où une nouvelle dynastie arrive sur le trône d'Angleterre, les Tudors remplacent les Plantagenets. Arrive sur le trône d'Angleterre Henri Tudor, qui va prendre le nom de Henri VIII, qui est gallois par sa mère. Sa mère d'ailleurs qui est très pieuse. Mais bien que très attachée à l'Église catholique, elle invite en Angleterre notamment Erasme. Mais elle va avoir un très farouche adversaire du mouvement humaniste en la personne de l'évêque de Canterbury, l'archevêque de Canterbury, Thomas More. En 1501, son fils, Henri, monte sur le trône d'Angleterre sous le nom d'Henri VIII. Il est jeune et il faut le marier d'urgence, comme tout bon roi qui se respecte. On lui trouve un parti digne de lui, mariage politique évidemment. Ferdinand d'Aragon, le mari d'Isabelle la catholique, n'est-ce pas, est de ce fait le plus grand monarque de l'Europe, et par conséquent, il constitue un parti important. Et des tractations nombreuses finissent par arranger le mariage entre Henri Tudor et la fille de Ferdinand et d'Isabelle, Catherine d'Aragon. Hélas, il y a un problème. C'est qu'Henri et Catherine sont plus ou moins apparentés. Et que, ce faisant, si on s'en tient strictement aux règles du Lévitique, vous savez, ils ne peuvent pas s'épouser. Or, les règles du Lévitique faisaient force de loi canonique dans l'Église catholique à cette époque-là. Qu'à cela ne tienne, on demande une dispense du pape, laquelle dispense est adoptée et est acceptée par Jules II, qui ne dépasse après, bien évidemment, en 1503, la dispense est accordée. Bon. Seulement, quand Henri voit la jeune prétendante, peut pas dire que ce soit le coup de foudre. Loin s'en faut. C'est tellement pas le coup de foudre que malgré tout son bon vouloir politique et la perspective des avantages politiques qu'il gagnerait à ce mariage, Henri VIII dit non, jamais. Alors là, vraiment pas. Bon. Finalement, après avoir longuement hésité, ses courtisans reviennent à la charge. Mais si, pour l'Angleterre, etc., tu dois te sacrifier. Bon, mariage de raison. Finalement, il accepte d'épouser Catherine d'Aragon, n'est-ce pas ? Le 11 juin, le mariage est célébré par l'archevêque de Canterbury. Dans le même temps, Louis XII de France épouse la sœur d'Henri VIII, Marie, le 7 octobre 1514. Or, ce mariage, nous allons voir, va avoir des conséquences tout à fait inattendues. Car il est bien évident que jamais Henri n'aimera Catherine, n'est-ce pas ? Il la supportera pendant quelque temps. Or, très vite, il apparaît aussi que cette pauvre femme n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc, Henri VIII n'a plus aucune raison de s'attacher à elle. Maintenant, en attendant les conséquences inattendues de ce mariage, de raison diplomatique et politique, les choses continuent à évoluer en Angleterre même. Le 1er janvier 1515, Wousley, qui est un des très grands dignitaires de l'Église d'Angleterre, décide de faire d'Oxford le centre mondial de l'humanisme. Et il ouvre à fond l'Angleterre à l'influence de l'humanisme. Dans la foulée de l'humanisme, un certain Collet va prêcher la réforme du clergé seulement. Wousley est très opposé à ce mouvement. C'est ce qu'il lui doit d'ailleurs, c'est ce à quoi il doit d'avoir son chapeau de cardinal en 1515. Et Wousley va être celui qui va faire brûler publiquement les deux premiers martyrs de la réforme en Angleterre, en 1517. Et 1517 marque pour l'Église d'Angleterre la fin de l'époque de la Renaissance et le début de l'époque de la Réforme. On verra, si vous voulez, à la rentrée, la suite de cette réforme en Angleterre. Bien, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?